Alors, en l'occurrence, évidemment, il y a la question de la délinquance des jeunes est prise dans de très puissants imaginaires. En particulier ce grand imaginaire historique de type décadentiste, qui consiste, ben, vous le savez bien, à nous expliquer que à chaque fait divers, comme ça a été le cas encore en région parisienne il y a 4, 5 ou 6 semaines, là, hein, on a eu 2 semaines pendant lesquelles on ne parlait que des bandes, des rixes, etc., à partir du moment où les médias mettent en série deux, trois faits divers en réalité et viennent plaquer par-dessus des explications générales, c'est-à-dire transforme les faits divers en des faits de société, hein, de manière tout à fait indue, parce que ce ne sont que des faits divers. Mais comme on n'en sait rien, hein, vous connaissez le principe du fonctionnement médiatique et politique, c'est qu'on veut absolument commenter dans les 48 heures quelque chose qui vient d'arriver. Or, dans les premières 48 heures, on ne sait rien de ce qui est arrivé. Enfin, on sait des choses factuelles sans intérêt, mais on ne sait absolument pas le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris véritablement l'histoire qui s'est racontée, qui sont les protagonistes en détail, quelles sont leurs histoires, qu'est-ce qu'ils connaissent, pourquoi étaient-ils en conflit, que s'est-il passé précisément. C'est des choses qu'on saura en général des mois après, à l'issue des enquêtes de police judiciaire, voire des années après, à l'issue d'un procès. Bon, et encore, même des fois, au procès, on ne sait pas tout. Mais c'est sûrement pas dans les 48 heures qui suivent qu'on sait quoi que ce soit de pertinent. Or, c'est là que tout le monde veut parler. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on veut absolument parler de quelque chose qu'on ne connaît pas? Et ben, il se passe qu'on vient plaquer dessus, en réalité, des généralités qui préexistaient, hein, et qu'on vient juste plaquer sur des faits qu'on n'a pas analysés. Et c'est ainsi qu'à chaque fois, et je fais ce métier depuis 25 ans, et ça fait 25 ans que je suis obligé de répéter la même chose, à chaque fois qu'on a comme ça des incendies médiatiques avec des mises en série de faits divers, eh bien, à chaque fois, on est obligé de venir dire que ces généralités qui sont plaquées sur les choses n'ont pas de sens, ne sont que des généralités sans intérêt, et qu'il faut étudier les faits si on veut en parler, et que sinon, il vaudrait mieux se taire. Ce serait la seule chose sérieuse à faire, mais évidemment, ce n'est pas ce que font les journalistes. Donc, ces discours qu'on va venir plaquer, eh bien, vont nous dire que forcément, ces jeunes, on le sait bien, ils sont délinquants de façon de plus en plus précoce. Hein, petite phrase, ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. On a entendu ça 300 000 fois. Aujourd'hui, ils auraient des armes, comme si on venait de les inventer. Ils agiraient en bande, comme si on venait de les inventer. Autrefois, il n'y aurait eu que des garçons et on aurait trouvé prétendument maintenant les premières bandes de filles. Un grand classique aussi. Et puis l'idée aussi qu'on trouve souvent, c'est qu'autrefois, ces phénomènes ne survenaient qu'en milieu urbain, alors que maintenant, ça se répandrait dans le milieu périurbain et rural. C'est la métaphore de la contagion, hein, l'idée qu'il y aurait une espèce de mal qui partirait des villes et qui se répandrait vers les saines campagnes. Comme chacun sait, il ne se passe jamais rien. Et voilà. Bon, tout ça, ce sont encore une fois des imaginaires, hein, des jeunes qu'on décrit aussi comme systématiquement, à chaque fois, et depuis 25 ans que je l'observe, comme forcément n'ayant plus de morale, plus de repères, toujours la même chose. Alors, ça, c'est pour les prétendus diagnostics. Je dis bien prétendu, puisque ce sont des séries de lieux communs en réalité. Ensuite, en général, dans le débat public, eh bien, on cherche les explications, c'est-à-dire qu'on cherche les coupables, en fait, hein, puisque tout ça est en fait une indignation morale, ce n'est pas une analyse intellectuelle, c'est de l'ordre de l'indignation, de la peur, de l'imaginaire, mais pas de l'analyse. Donc on cherche les coupables, en général, on commence par les géniteurs, hein, d'où le fameux thème de la démission des parents, grand, grand classique. On entend également dire que l'école ne joue plus son rôle et que les enseignants n'ont plus d'autorité sur ces enfants. On peut entendre dire également que des petites phrases du genre bon, la prévention, ça fait 30 ans qu'on essaye et puis ça marche plus, on est passé à autre chose, c'est trop dur, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, blabla, qui se terminera évidemment immanquablement par l'idée que, par ailleurs, la justice est laxiste, hein, bien sûr, et que c'est aussi la cause de tous nos problèmes. Alors, vous voyez, ce discours, hein, quand on le met ensemble, on voit bien sa cohérence, hein. Nous serions confrontés à des délinquants de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, qui n'ont plus de morale, qui sont des garçons, mais de plus en plus aussi des filles, comme quoi vraiment tout fout le camp, hein, alors qu'elles devraient rester à faire de la couture, c'est bien connu, et qui par ailleurs se rencontrent même dans les campagnes, avec des parents qui ont démissionné, des enseignants qui n'ont plus d'autorité, des éducateurs qui servent à rien, et des juges qui sont laxistes. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce discours? En réalité, on pourrait le résumer en une seule phrase, hein, une seule phrase qui est bah, « Tout fout le camp, ma brave dame, hein, mon bon monsieur, tout fout le camp, c'est plus comme avant. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est le discours du café du commerce, avant tout. Hein. C'est aussi un discours générationnel, soyons clairs, c'est le discours des personnes âgées sur les jeunes, qui plus est, si on mettait un petit peu d'humour, on va dire c'est un discours générationnel début 21e siècle, où les gens vivent de plus en plus longtemps avec de plus en plus d'Alzheimer. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont oublié que quand eux-mêmes étaient jeunes, c'est ce que déjà les vieux de l'époque disaient d'eux, hein. Une histoire qui n'en finit jamais. Alors, je dis ça avec un peu d'humour, mais dans les publications, vous verrez les références de ça, c'est-à-dire vous verrez comment il est écrit en toutes lettres dans des livres, par exemple, de la deuxième moitié du 19e siècle, que nous sommes confrontés à des jeunes, plus violents, en bande, c'est-à-dire exactement les mêmes discours qu'aujourd'hui, il y a 150 ans, hein, exactement. Voilà. D'où également une petite plaisanterie que j'aime bien faire pour détendre l'atmosphère, consistant à dire, bah, si depuis 150 ans, les jeunes rajeunissaient en permanence dans leur violence et leur délinquance, alors il y a longtemps que les nourrissons devraient braquer les banques. Et donc, représentation, je répète qu'il y a 150 ans, hein, dès la deuxième moitié du 19e siècle, on trouve déjà de la littérature pour tenir ce type de discours. Donc, il faut les. Pourquoi reviennent-ils tout le temps, néanmoins, malgré leur évident aspect café du commerce? Mais ils reviennent tout le temps parce qu'ils ils sont l'objet d'instrumentalisation politique. Hein. Vous le savez, c'est évident, mais là aussi, il vaut mieux le rappeler, le dire clairement. Parmi les plus, sans doute la plus vieille rhétorique du monde, c'est la rhétorique de l'insécurité, hein, celle qui permet de dire c'est le désordre, c'est l'insécurité, votez pour moi et je vais rétablir l'ordre et la sécurité. Voilà, c'est probablement la plus vieille rhétorique politique du monde et qui continue à fonctionner. Qui continue à fonctionner. Donc, parmi les sujets dont cette rhétorique va s'emparer pour se déployer, la délinquance des jeunes est un grand classique. Ce n'est pas la seule, même sans, c'est un grand classique. Ensuite, ça persiste du fait de ses usages médiatiques, on l'a déjà évoqué, hein, les médias adorent les faits divers criminels, tout ce qui est spectaculaire, qui provoque émotion, indignation, etc. Ça marche très très bien. Donc, c'est un grand usage médiatique de ces émotions sur les faits divers et les jeunes. Alors, une dernière chose que je veux dire ici, sinon ce serait trop long, mais une dernière, c'est que ces discours sur les problèmes qui augmentent tout le temps, qui sont de plus en plus durs, il faut dire les choses comme elles sont, ce sont des discours qu'on peut rencontrer parfois, y compris chez les acteurs de la prise en charge de ces problèmes, chez les professionnels, hein, y compris chez des professionnels qui ont par ailleurs un corpus de valeurs professionnelles, une déontologie, etc., qui se situe plutôt du côté de la bienveillance, du côté du refus de la stigmatisation des populations fragiles, etc. Donc, concrètement, on peut même rencontrer des travailleurs sociaux, par exemple, qui peuvent tenir ce genre de discours. Et quand je l'ai rencontré à quelques reprises dans ma carrière, je me suis aperçu que le plus souvent, les personnes qui tiennent ce discours, qui entrent donc parfois en contradiction avec ce qui est par ailleurs les valeurs professionnelles qu'ils affichent eux-mêmes aussi, hein, sont en général en réalité des personnes qui sont tous, j'allais dire tout simplement, ce serait, ne le prenez pas mal, qui sont tout court, on va dire, qui sont en fait, qui expriment à travers ça un sentiment d'impuissance et une fatigue professionnelle. Bon. Et il faut être capable de le reconnaître, de le dire, il n'y a rien de honteux, c'est parfaitement normal. Je dirais même que toutes les personnes qui sont, qui sont en première ligne du social, hein, qui sont dans des métiers où, au fond, passez-moi le caractère familier du propos, mais c'est pour qu'on se comprenne bien, toutes les personnes qui se prennent, au fond, dans la figure tous les jours, la misère sociale, la misère humaine, etc., et qui ont par ailleurs toutes quelques outils, mais des outils limités pour faire face à ces souffrances, toutes ces personnes sont en situation, sont en risque d'épuisement professionnel. C'est tout simplement usant d'être confronté en permanence aux conséquences des misères humaines et aux souffrances humaines, avec par ailleurs pas tant que ça de moyens, hein, pour véritablement y changer quelque chose durablement, etc. Voilà. Donc, c'est très usant, au fond. Et il faut simplement s'en apercevoir. Voilà. Il y a des moments où on peut être tenté, quand on est fatigué, au fond, et bien, du coup, forcément, le métier devient plus dur. Et si on n'est pas lucide, au lieu de comprendre que c'est parce qu'on est fatigué, on peut être tenté de dire que c'est la faute du public, au fond. C'est parce que le public est plus dur, que le métier, du coup, est plus dur. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'on est fatigué. Voilà, ce qui est tout à fait différent.